Bonjour et bienvenue au WACFest Weekly News de la semaine qui se termine le 16 juin. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du HackFest Weekly News. Je suis Richer et je vous présente les nouvelles qui m'ont intéressé cette semaine. Donc, pour commencer, j'ai trouvé un bel outil cette semaine qui s'appelle eScanner. eScanner, qui est un outil qui permet de pouvoir vérifier les possibilités d'escalade de privilèges locaux. Donc, c'est vraiment une traduction... très mauvaise. Donc, en réalité, d'après la description, c'est justement, c'est un logiciel qui permet de vérifier les dossiers et les répertoires de façon récursive pour trouver des possibilités de vulnérabilité dans les fichiers, les permissions de fichiers qui pourraient permettre de faire une escalade de privilèges. Donc, privilege escalation, je préfère le terme en anglais. Comme toujours. Mais bref, donc c'est un bel outil qui fonctionne sous Windows et qui permet de pouvoir vérifier les possibilités d'attaque avec, par exemple, être capable de pouvoir rouler en tant que système s'il y avait un impact par rapport à la machine. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Allez télécharger ça pour aller vérifier vos machines. Donc, comme deuxième chose, il y a Metasploitable 2 qui est sorti. Metasploitable qui est une distribution de Ubuntu qui est prévue d'être qui a été montée de façon vulnérable dans le même principe que le live CD du HackFest et de Kioptrix aussi. Donc ça VM vulnérable qui permet de pouvoir faire des tests de sécurité et qui est distribuée par Rapid7. Donc, à ce moment-là, cette nouvelle version-là a encore plus d'options de tests de vulnérabilité. Et donc, ça serait intéressant de pouvoir la regarder. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir la télécharger encore, mais je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous autres. Donc, ça, c'est bon. Et puis, il y a eu aussi des mises à jour de Apple pour Java. Et donc, comme c'est là, il y a les mises à jour qui ont été faites par rapport à justement des vulnérabilités au niveau de Java, encore une fois. Le point important de l'article que j'ai trouvé cette semaine, c'était qu'en réalité, Apple essaie de pouvoir, en tout cas, tout semble porter à croire qu'il semble vouloir... améliorer leur temps réponse par rapport aux mises à jour et aussi, justement, pouvoir être capable d'être plus proactif par rapport à ça, étant donné qu'ils se sont fait reprocher énormément le temps de mise à jour qui a pris, je crois, 6 semaines avant de pouvoir mettre à jour le problème par rapport à Flashback, donc les plugins Flash et tout ça. Et donc, ça l'avait infecté 600 000 ordinateurs. C'est assez important. Et ils se sont fait reprocher ça, de ne pas avoir agi assez rapidement pour pouvoir régler ce problème-là. Donc là, présentement, on dirait qu'ils ont décidé de pouvoir se dépêcher un peu plus, ce qui est une bonne chose. Donc ça, c'est super. Et comme dernier point, j'ai trouvé un article qui montrait 3 points intéressants à développer pour avoir des compétences en... pardonnez-moi l'expression en anglais, Digital Forensics. Donc, comme c'est là, parce qu'en réalité, en français, j'ai aucune espèce d'idée comment ça se dit. Donc, cet article-là est intéressant parce que, comme c'est là, il parlait des 3 points qui étaient intéressants à développer pour s'aider en tant que réponse d'incident et pour pouvoir vérifier, faire du forensic sur des incidents en question. Donc, les trois points qu'il donnait, c'était de pouvoir d'avoir des connaissances très vastes au niveau de l'informatique. Et donc, vraiment, pas juste comprendre comment installer un programme, mais vraiment comprendre comment chacun des services fonctionne et pour être en mesure de mieux comprendre leur comportement normal, pour établir une ligne de base ou une baseline pour être capable de pouvoir savoir ce qui est un cas normal et pas un cas d'exception. Donc, à ce moment-là, c'est une bonne chose de pouvoir comprendre comment ça fonctionne pour être capable de voir quand il y a un problème qui survient. Donc, ça, c'est une belle, c'est un bon point. Comme deuxième point qu'il donnait, c'était de pouvoir développer au moins une des qualités, un des talents en forensic qui serait poussé, comme par exemple être capable de pouvoir... On parle toujours de pouvoir être capable de répondre à des problèmes qui arrivent et être capable de pouvoir analyser, faire un post-mortem finalement d'un incident et de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, il suggérait, par exemple, d'être capable de pouvoir faire des règles SNORT. Ça serait une bonne chose. Ou encore être capable d'analyser des images mémoire. C'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes à pouvoir développer comme talent. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant. Mais effectivement, donc, le fait de pouvoir prendre le temps de pouvoir évoluer et d'apprendre plus dans une catégorie aide à pouvoir... être plus au courant, finalement, mais aussi pouvoir montrer la détermination d'être capable de pouvoir apprendre des nouvelles choses. Et comme troisième point qu'il donnait, c'était justement de se créer une réputation en contribuant à la communauté avec des outils ou tout simplement en donnant des points ou en faisant des articles. Ça, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à pouvoir faire pour être capable de montrer que, hey, on est là, on est capable de pouvoir aider nous autres aussi. Et ça, c'est une belle façon de pouvoir réussir à pouvoir avoir la job qu'on veut avoir dans ce domaine-là ou de pouvoir avoir des contrats ou de faire des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Donc j'ai bien aimé ce petit article-là. Donc ça termine mes nouvelles de la semaine. Et donc, on va pouvoir se revoir la semaine prochaine avec encore plus de nouvelles. Ou encore des nouvelles plus longues. Fait qu'on devrait pouvoir rentrer dans le même temps. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!
Bonjour, moi c'est Patrick et voici mes nouvelles de la semaine. Tout d'abord, on commence cette semaine par la suite des événements, pas mal des derniers mois en fait. Concernant Anonymous, donc on parlait la semaine dernière d'Anonymous qui avait réussi à pirater les services de police du SPVM, donc de la police de Montréal. Il avait réussi à rentrer dans certaines bases de données qui étaient front directement sur Internet, ce qui est un petit peu malheureux. Il avait réussi à avoir plusieurs données très confidentielles là, concernant la protection des citoyens, plusieurs services de police, des noms, des numéros de téléphone et autres. Donc ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, ça continue, mais avec le site de la Caisse des Jardins, donc Caisse Police, qui a été piraté encore une fois avec une vidéo d'Anonymous directement sur le site concernant la répression policière. Donc, les Anonymous ont dit avoir fait cette attaque pour dénoncer la loi 78, interdisant en partie certains éléments dans les manifestations. En même temps, durant la fin de semaine, de la Formule 1. Il a été pris des attaques concernant les bases de données des clients de la Formule 1, mais c'est principalement des sites en Europe. Donc, comme on avait déjà parlé, c'est principalement des attaques d'Européens et non pas seulement des attaques d'Anonymous Québec. Donc, tout le monde s'est relié à la cause, si on peut dire. Donc, voilà, ça continue concernant Anonymous. Si on continue aussi du côté de la semaine dernière, en fait, Twitter avait fait pirater plusieurs millions de comptes, environ 6,5 millions. Cette semaine, encore une attaque envers Twitter. En fait, c'est via le service TweetGift, donc qui est un endroit d'hébergement des images animées que vous pouvez relier à votre compte Twitter. Il y a souvent des problèmes, justement, dans les tiers parties. Twitter est quand même assez sécuritaire. Malgré le fait que se sont fait pirater, on ne sait pas encore la cause en plus. Mais on peut dire qu'il y a quand même un effort de sécurité là versus des sites de tiers, à côté que eux, leur sécurité est plus ou moins regardée. Donc, a été finalement regardée par des pirates ici qui se sont dit de l'OLSEC. Donc, l'OLSEC dit qu'ils reviennent à la charge avec des attaques. Ils ont réussi à voler environ 10 000 user passwords de la base de données de TweetGIF. Donc, le secret, le nom, les user passwords qui sont principalement identiques à ceux-là de Twitter parce que c'est une authentification OAuth qui fait le lien justement entre TweetGIF et Twitter. Donc, ils ont pu pirater comme ça une dizaine de mille de comptes qui ont réalisé encore là, sur des sites web de diffusion anonyme. Pastebin, exactement. Ça va côté Twitter. Ensuite, on a eu aussi une nouvelle vulnérabilité qui est assez sérieuse, en fait, de MySQL. Et le titre est carrément « Serious MySQL Authentication Bypass ». MySQL a un petit bug au niveau de son code qui permet en fait à une certaine validation dans le code de valider si une donnée est entre moins 128 jusqu'à 127, donc un 5 caractères. Sauf que il y a une manière dans le code de bypasser cette validation-là et que la valeur sorte du range. Donc, quand la valeur sort du range, dans la fonction de validation, si la valeur n'est pas bonne, une fois de temps en temps, la valeur qui est validée, en fait, si le mot de passe est bon, qu'on s'authentifie à MySQL en console locale, est bypassée. Donc, si on fait une boucle d'essayer de se connecter environ 1000 fois à MySQL avec un mauvais mot de passe, bien, à un moment donné, la MySQL va nous laisser passer parce que l'authentification va être mauvaise due à un mauvais code en arrière. Et peu importe le mot de passe qu'on lui donne, donc l'authentification retourne true, même avec un mauvais mot de passe. Donc, vous pouvez aller voir sur les liens, là, il y a un code de disponible pour tester si votre MySQL est vulnérable ou non. Sinon, bien, veuillez mettre à jour. Un petit fait cocasse, en fait, un site d'Australie, quelqu'un qui vend des services en ligne, ben pas des services en ligne, mais qui a un service en ligne de vente comme des télés et autres choses du genre, et trouve que développer un site web pour Internet Explorer est vraiment compliqué et que ça donne pas grand-chose pour le nombre de personnes qui l'utilisent. Donc, il a décidé de mettre une taxe à toute personne utilisant Internet Explorer pour acheter chez eux. Donc, 0,1% à chaque mois depuis le lancement d'Internet Explorer 7. Donc, quand on achète quelque chose à environ 600$, donc on a plus ou moins présentement un 6,8% de taxe pour un 40$ pour soutenir le site web à utiliser encore Internet Explorer au lieu des autres browsers. Ce qui est quand même cocasse, mais assez intéressant comme concept. Finalement, bien... tout le monde a entendu parler pas mal de Flame, qui est comme le nouveau Stuxnet. La nouvelle présentement dans les grosses analyses dit qu'il y a une certaine partie du code qui aurait été développée par la même équipe pour qu'est-ce qui est de Flames et Stuxnet. Donc, il y aurait des éléments très semblables au début du développement des deux logiciels. Donc, à suivre dans les prochains mois. Et finalement, côté... Shameless plug, toujours ce mois-ci, 28 juin, quatrième jeudi du mois, comme à chaque mois, le Hackerspace, 18h30 à l'Université Laval. Ce mois-ci, moi et Nicolas, on présente Anonymous, cet illustre inconnu. Donc, simplement vous inscrire sur notre site web ou vous présenter à l'Université Laval. Et c'est toujours disponible via Ustream depuis le mois passé, donc vous pouvez tester cela. Nous voir en direct sur Internet dès 18h30. Sinon, les inscriptions sont toujours ouvertes. Beaucoup de nouveautés dans nos Hacking Games de cette année. Les inscriptions devraient ouvrir bientôt, donc on espère vous revoir bientôt. Merci à tous.
Bonjour, mon nom est Nicolas Fortin, voici les nouvelles qui m'ont marqué pour cette semaine. C'est une semaine très chargée, pas de gros coups d'éclat comme la semaine dernière avec les différentes brèches qui ont été connues, mais quand même, il y a plein de choses intéressantes cette semaine. Commençons par un fournisseur de logiciels de santé pour des respirateurs, entre autres. Site web pour distribuer les mises à jour de firmware est complètement infecté de codes malicieux, ce qui met un sérieux doute sur l'intégrité des firmware en question qui sont distribués aux différents clients. C'est un autre élément en santé qu'on va commencer à un peu insérer des codes malicieux à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est un début. C'est très épeurant parce que de plus en plus d'équipements de santé sont dépendants des éléments technologiques de connectés. Donc, ça place dans une situation assez dangereuse. Et en plus de ça, c'est que si l'industrie n'est pas capable de se discipliner elle-même, ce qui semble de toute apparence pas du tout, ça va être les législateurs qui vont commencer à s'intéresser à ça, dont au Canada, c'est Santé du Canada qui va s'en occuper. Aux États-Unis, c'est le FDA, ce qui va énormément allonger les processus d'approbation des équipements et logiciels de santé, puisqu'ils devront passer à travers des évaluations beaucoup plus rigoureuses qu'ils sont actuellement. Donc, c'est un bien pour un mal. Au moins, le législateur va venir protéger la population contre l'incapacité, dans ce cas-ci, à l'industrie de se contrôler elle-même. Le UrCert a divulgué une faille dans ses processeurs 64 bits d'Intel qui, dans des cas de virtualisation, permet de sauter d'une machine à l'autre. C'est des choses, d'un point de vue théorique, qu'on avait beaucoup entendu parler dans les années passées avec Bluepill. Cette fois-ci, c'était vraiment une faille au niveau du processeur lui-même qui, en fond, l'ultime gardien de l'intégrité de chacune des machines virtuelles est capable, en tout cas, a une faiblesse au niveau de l'implantation des OS qui sont par-dessus, qui utilisent cette virtualisation. Pour revenir un peu sur la brèche de LinkedIn la semaine dernière, c'est sûr que suite à une brèche de cette nature-là, il y a un panoplie de gens avec des intentions plus ou moins bonnes qui vont tenter de faire beaucoup de spamming, beaucoup de phishing qui va entourer ce genre de choses-là, donc de faire très, très attention, être doublement vigilant par rapport à ça. Et en même temps, l'obtention de ces mots de passe-là a permis à une panoplie de gens d'évaluer la qualité générale des mots de passe et à un temps assez réduit. Plusieurs chercheurs ont réussi à casser la grande majorité des mots de passe. Je crois que c'était 2 millions en l'espace d'un temps comme de 4 heures. Donc, il y a peut-être la question de remettre en question les méthodes d'authentification qui sont en place avec les mots de passe parce que naturellement, les gens ne feront pas très attention. Donc, ce serait temps qu'on y réfléchisse. D'un point de vue maintenant offensif, Flame et Stuxnet semblent avoir les mêmes auteurs. Plusieurs pointent vers les services secrets américains ou en tout cas une agence à trois lettres américaine qui aurait été en arrière de ces choses-là. Même Flame aurait probablement prédaté Stuxnet en termes de développement puisque certains indicateurs tendent à pointer qu'un peu moins raffiné. Mais les moteurs principaux sont origines de la même source, donc sont similaires. Et dans cette même optique-là, il y a certains chercheurs qui commencent à croire que Microsoft a des agents doubles des services secrets américains qui sont là pour justement soit obtenir l'information d'avance pour aider ou à la limite planter des choses. Donc, mais ça, c'est une quête de rumeurs, c'est ce qu'ils pensent actuellement. Et d'un autre côté, le Pentagone. Des contracteurs du Pentagone offrent des offres d'emploi offensives de façon très claire et sans cachette pour développer du code malicieux et développer des attaques concrètes. À part ça, cette semaine, une nouvelle est sortie sur le fait que Google et Facebook sont les deux plus gros sites qui traquent nos habitudes sur le web. Pas de grande surprise, mais au moins, c'est des choses qui deviennent de plus en plus dans le domaine d'intérêt public. Donc, c'est très intéressant de voir que les gens, ou en tout cas du moins les médias s'intéressent de plus en plus à ça. Le FBI a de la misère à pourchasser la pornographie infantile transférée par tort. C'est un effet pervers de ces genres de réseaux-là. Malheureusement, si des gens l'utilisent pour des fins moins nobles que la conception originale du système, a souhaité que le FBI trouve un moyen efficace de réussir à amoindrir ou pouvoir pourchasser ces gens-là, parce que c'est tout à fait ignoble. Une étude vient de sortir disant que les employés vont quitter avec de l'information volée s'ils sont remerciés. Pas grande découverte là-dedans. Dans le fond, plus une démonstration que la nature humaine est ce qu'elle est. Donc, peut-être mettre en place des mesures justement pour protéger. Ça va aussi avec le fait que les administrateurs des systèmes ont des super pouvoirs, donc peuvent voler de la super, super quantité d'informations. Meilleure ségrégation des choses. C'est sûr que ce n'est pas toujours des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre parce que, bon, historiquement, on n'est pas habitué à ce genre-là. Moi, dans les contextes civils, de cloisonner l'information pour justement éviter ce genre de problème-là. En même temps, avec la quantité d'informations qui est de plus en plus disponible, c'est peut-être un moment de commencer à réfléchir dans cette direction-là. Un détaillant australien a décidé d'imposer une taxe sur l'utilisation de Internet Explorer 7. C'est un élément très intéressant parce que c'est une première, dans le fond, c'est une première où un commerce va surcharger le fait d'utilisation d'une technologie qui est un peu plus vieille ou désuète. Vieille ici dans ce cas-ci, parce que quand même, il y a encore d'Internet Explorer 6 qui circule. C'est ça qui est réellement désuet. Le fait de mettre un incitatif financier de cette façon-là va inciter les gens à migrer vers des plateformes plus modernes. Ce qui est en soi une très bonne chose, c'est un collatéral dans ce cas-ci qui n'est peut-être pas l'objectif premier de la compagnie, mais dans ce cas-ci, c'est très intéressant. Puis, puisque les gens là, vont vouloir faire les efforts nécessaires pour ne pas avoir payé ce prix-là, qui est une mise à jour d'une version plus récente de Windows et d'Internet Explorer dans ce cas-ci, ou l'utilisant d'un autre navigateur comme Firefox, Chrome ou Safari, si le cœur vous en dit. La crypto quantum est difficilement accessible. Il y a une nouvelle qui est sortie que des chercheurs ont réussi à appliquer le principe de cryptographie quantum dans des fils plus classiques, c'est-à-dire en utilisation de résistance électrique à travers le fil, dans la perspective où la lecture de cette information vient modifier le courant qui est dans le fil, donc va renseigner sur le fait que il y a quelqu'un qui écoute et dont la clé est carrément imbriquée dans le fil. Donc, dans ce moment-ci, c'est beaucoup plus difficile, comme le quantum, de réussir à écouter le contenu. Gartner avertit les entreprises que les périphériques jailbreaking posent des risques de sécurité beaucoup plus grands. Ça n'en soit pas une très grande nouvelle, puisque c'est des informations qui étaient déjà sorties dans des événements de sécurité comme le Black Hat 2011. Mais c'est intéressant de voir que des entreprises comme Gartner, finalement, vont commencer à marteler ce message-là. Donc, les entreprises vont porter une plus grande attention au fait que ces périphériques-là posent des problèmes de sécurité beaucoup plus grands, puisque le fait de jailbreaker le iOS, dans ce cas-ci, principalement, vient enlever les sécurités qui sont inhérentes au fait du iOS, qui est le cloisonnement des applications, et ainsi de suite. Donc, affaiblit naturellement la défense naturelle du système. Dans la même ligne d'idées, Securosis a rendu disponible un document sur comment défendre iOS. Vous trouverez les informations dans le show notes. Très intéressant. Ils produisent plein de beaux documents et des documents très utiles pour améliorer la réflexion au point de vue de la sécurité. Fait intéressant, en Europe, dû à les problèmes que l'euro connaît actuellement, Bitcoin commence à être de plus en plus utilisé. Puisque ça facilite les transferts interpays beaucoup plus facilement avec des délais beaucoup plus rapides. Dans l'article, entre autres, il mentionnait entre 3 jours pour les moyens conventionnels à moins d'une journée à travers Bitcoin. Donc, le chemin de plus faible résistance, les gens vont naturellement vers ça. Le problème de Bitcoin, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité inhérents à ça. Il y a un certain nombre de failles à ça qui sont faites que c'est beaucoup moins résistant aux attaques que sur le système bancaire conventionnel qui lui a mis beaucoup de temps et d'énergie à chasser beaucoup des problèmes de sécurité qui sont à ça. Patrick Mathieu a fait quelques références par le passé à Bitcoin, les problèmes qui sont à ça. C'est toujours un élément qu'on va devoir regarder davantage dans le futur puisque il semble avoir un intérêt beaucoup grandissant pour ce genre d'outils-là de transfert d'argent. Ensuite, beaucoup de mises à jour cette semaine. Les patchs Microsoft, énormément de patchs pour RDP, pour XML, pour les certificats, pour Office, pour les éléments là, d'Internet Explorer. donc, très important de mettre à jour puisque ça va régler une panoplie des problèmes qu'on a connus de la semaine dernière. Et c'est assez important dans ce cas-ci. Utilisez un système de confiance possible à partir de la maison, pas sur la route, pas dans un café internet. Quand vous mettez à jour, mettez le jour à partir de la maison puisque les attaques qui ont entre autres été utilisées dans le cas de Flame sont des attaques qui viennent faire que les certificats utilisés par Microsoft peuvent être utilisés à des fins malicieuses. Donc, au moins, si on est dans la maison ou à l'intérieur de l'entreprise, il est moins probable d'avoir une attaque de man in the middle, donc que quelqu'un vienne intercepter et puisse injecter du code au lieu de correctif de Microsoft. Mais en somme, mettre à jour, justement, pour se protéger contre ça, qu'à l'avenir, on puisse ne plus avoir ça. MySQL semblerait une faille qui permet de contourner les mots de passe. Donc, mise à jour là-dessus aussi. iTunes, mauvais parsing de fichiers, donc ça aussi mettre à jour. Adobe aussi, avec une panoplie de patch. Java aussi. À noter que Apple a sorti en même temps que Java, donc très important. VMware aussi a sorti un advisory pour des ES6, donc de mettre à jour, très important aussi. Et PHP 4.5.4 et 5.3.14 ont rajouté un correctif pour le DES qui, avec un certain problème, je pense que c'est aussi de heap overflow. Donc, de régler ça, c'est sûr que la crypto est très sensible ces temps-ci et important de corriger les problèmes quand ils se présentent. Donc, ça fait le tour de mes nouvelles cette semaine. C'est un peu plus large que d'habitude puisqu'il y en a beaucoup. Donc, à la semaine prochaine. Thank you.